Bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier module consacré donc à l'initiation au code pour les vrais débutants. Et l'idée maintenant, c'est de passer aux choses sérieuses. On va basculer sur Windows 10 pour développer une application universelle. Alors, qu'est-ce qu'une application universelle? Je vous l'explique dans quelques instants. Mais en tout cas, l'idée, c'est de vous montrer que tout ce que vous avez appris avec les applications console et avec les applications WPF, vous allez pouvoir réutiliser eh bien, ce code pour développer une application universelle. Alors avec l'arrivée de Windows 10, on va bénéficier de quelque chose d'assez pratique, c'est qu'on va avoir un socle d'exécution commun pour l'ensemble de ces périphériques, c'est-à-dire des choses assez traditionnelles et classiques comme des PC, des tablettes, sur lesquelles on va avoir Windows 10 qui est aujourd'hui en version finalisée. On va avoir également des smartphones avec l'arrivée de Windows 10 Mobile, qui aujourd'hui est en version bêta, en version insider, que vous pouvez déjà tester, mais qui va arriver en version finalisée un petit peu plus tard dans l'année. Et puis, Xbox One va également rejoindre la famille Windows 10, car elle va disposer du même socle d'exécution dans quelques mois. Et à côté de ça, on va disposer de périphériques un petit peu moins traditionnels. Voilà, on a sorti une version IoT pour l'Internet des objets, plutôt les objets connectés. Donc c'est plutôt pour des petites cartes de prototypage comme la carte Raspberry Pi 2, sur lesquelles on a une version Windows 10 qui est capable également de tourner. On a ce qu'on a tout en haut à gauche, c'est une Surface Hub. C'est également un périphérique qui tourne avec Windows 10 et qui dispose d'un écran 84 pouces. Et sur la droite, vous avez un nouveau périphérique qui arrive aussi prochainement, qui s'appelle HoloLens. Ce sont des lunettes de réalité augmentée. Donc si vous ne connaissez pas le produit, je vous invite à regarder un petit peu, voilà, sur la toile les premières vidéos de ce périphérique qui a l'air très prometteur. Alors, l'intérêt d'avoir ce socle d'exécution, c'est qu'on va pouvoir eh bien, créer une application universelle qui va tourner sur l'ensemble de ces périphériques. Donc concrètement, on va développer une seule fois l'application, ça va nous créer un seul et même package, et ce package, on va pouvoir le déployer sur l'ensemble de ces périphériques. Alors, on aura du code commun, mais le design, forcément, va devoir être adapté, vu qu'on a des périphériques qui vont de 5 pouces à 84 pouces. Eh bien, après, c'est vous, avec votre designer, eh bien, de travailler votre application pour faire en sorte qu'elle s'adapte au design pour mettre plus ou moins de choses à l'écran et que eh bien, l'expérience pour l'utilisateur soit la plus pertinente entre des périphériques qui vont de 5 à 84 pouces. Alors si on compare le projet WPF que vous venez d'écrire avec l'application Windows 10 sur lequel on va travailler, honnêtement ça va être une révolution assez tranquille. Vous allez voir qu'on va réutiliser vraiment plus de 90% de ce qu'on a déjà réalisé en WPF pour créer notre application universelle. Donc on va retrouver Visual Studio, on va retrouver Blend. Ça va toujours être du code C# et du code XAML pour déclarer l'interface. Donc là-dessus, assez peu de différence. La grande différence, elle va porter surtout sur le mode de déploiement. Jusqu'à aujourd'hui, on a développé des applications traditionnelles et ces applications génèrent un code exécutable, donc un fichier exe à la fin. Et ce code exe, vous allez pouvoir directement l'exécuter sur la machine cible. C'est-à-dire que si je prends mes fichiers avec le code exécutable, donc je prends ce qui a été compilé, je peux après aller le copier sur le PC de quelqu'un d'autre, et puis je vais pouvoir double-cliquer encore sur l'exécutable pour relancer mon application. Avec l'arrivée de Windows 10, le principe est un petit peu différent puisque votre application universelle va compiler et générer un fichier APPX, donc c'est un package dans lequel on va retrouver l'ensemble des ressources de votre application. Et ces ressources, on va pouvoir après les envoyer vers le store Windows. Donc vous pouvez comparer ça exactement comme au Google Play ou à l'Apple Store. Et l'idée, c'est de mettre à disposition à tous les utilisateurs de Windows eh bien, votre application. Alors, quand je dis mettre à disposition, c'est vous après qui choisissez le mode opératoire. Soit vous pouvez la rendre gratuite, soit vous pouvez la rendre payante, et vous pouvez même la rendre cachée, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser simplement le store pour derrière récupérer un lien, mais on ne verra pas votre application disponible sur le Windows Store. C'est simplement après que, grâce à ce lien, vous allez pouvoir la distribuer simplement aux utilisateurs que vous connaissez. Donc, voilà pas mal d'options en termes de distribution d'applications. Mais l'idée, c'est que grâce à ce package APPX, eh bien, vous allez pouvoir mettre à disposition votre application, eh bien, à tous les utilisateurs de Windows hyper facilement. Eh bien, sans plus attendre, je vous propose, voilà, de se lancer dans la création de cette application universelle. Et pour ce faire, eh bien, j'ai récupéré exactement ce qu'on a pour le moment réalisé au module 3. Donc si vous avez éventuellement sauté quelques étapes, eh bien, n'hésitez pas à retélécharger le code du module 3 et puis de lancer, d'ouvrir la solution telle qu'elle est actuellement à l'écran. Alors, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, eh bien, créer un nouveau projet, ajouter nouveau projet. Donc, pour le moment, vous devez être des experts, vous l'avez déjà fait plusieurs fois. Et on va aller dans Visual C Sharp, Windows, Application Universelle, et on va créer une application vide. Il reste juste à la nommer. Donc, on va l'appeler Nombre Mystère Universal. Je vais enlever l'accent, c'est jamais une bonne idée de mettre des accents dans le nom des applications. Voilà, nombre mystère universal. Et on va faire OK. Donc il va me générer un projet et vous allez voir que en termes d'architecture de projet, on va retrouver quelque chose d'assez similaire à ce qu'on avait en WPF. Alors maintenant, théoriquement, votre première réaction va être de déclarer votre application universelle comme projet de démarrage. Donc, on sélectionne le projet et on le définit comme projet de démarrage pour faire en sorte que ce soit ce projet-là qui soit pris en compte lorsqu'on va le compiler et lorsqu'on va le lancer. Alors, comparons ce qu'on avait dans l'application WPF. Rappelez-vous, vous aviez un point d'entrée qui était app.xaml qui lance la fenêtre mainwindow.xaml qui est définie à la fois avec un code XAML pour l'interface et puis un code C# pour le code qui est derrière. Eh bien, si on ouvre l'application universelle, on va avoir quelque chose d'assez similaire. Notre point d'entrée app.xaml, il est toujours là. Très bien. Et on a en revanche mainPage qui remplace mainWindow, mais c'est l'équivalent, c'est simplement que si je ouvre mainPage.xaml, on va avoir le même type d'interface. Voilà, c'est la typologie qui change un petit peu. Au lieu d'avoir une fenêtre, on a une page. Mais honnêtement, les modifications ne vont pas être vraiment majeures. Ensuite, les autres fichiers, pour le moment, vous pouvez eh bien, les mettre de côté. Ce qui est important, c'est ce fichier manifeste, appx manifeste, dans lequel on va, si on l'ouvre, retrouver pas mal d'éléments, entre autres des ressources visuelles. Alors, les ressources visuelles, ça va être les logos de l'application, puisque une application universelle, si par exemple j'ouvre le menu ici, vous voyez, j'ai épinglé un certain nombre d'applications, et ces applications, si on regarde bien, elles ont des visuels, elles ont des logos, et ces logos, eh bien, je vais pouvoir les déclarer directement ici dans cette interface appx manifest. Alors, ce fichier permet de faire pas mal d'autres choses, on va laisser un petit peu ça de côté pour le moment, on va se consacrer mainpage.xaml. Alors, je vous ai expliqué que c'était une application qui était destinée à plusieurs form factors, c'est-à-dire du périphérique petit 5 pouces comme les téléphones, jusqu'à du 84 pouces. Là, par défaut, on m'a positionné sur un designer qui me propose un téléphone 5 pouces. Si vous regardez et que vous étendez cette vue-là, vous allez pouvoir voir à quoi va ressembler votre application en fonction de différents form factors. Et par exemple, on va rester pour le moment sur une application type desktop, ce qu'on a réalisé jusqu'à maintenant. On va faire ajuster tout et on retrouve un form factor un petit peu plus habituel, celui que vous avez vu jusqu'à maintenant. Et sinon, eh bien, ma foi, ça ressemble assez à ce qu'on avait en WPF. Donc, comme on a la chance d'avoir quelque chose qui ressemble assez à notre application WPF, eh bien, soyons fous, essayons de reprendre le code tel qu'il est dans l'application WPF. On va simplement le migrer. Eh bien, peu à peu dans l'application universelle. Et donc, je vais commencer par l'interface graphique. Donc, je vais aller prendre mainwindow. Donc là, je suis dans mon application WPF. Je vais dans mainwindow.xaml. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller copier ce qui se passe dans ma grille. Là, actuellement, j'ai un stack panel. Donc, je vais copier l'intégralité de ce stack panel. Et je vous demande de faire attention à deux choses. Ici, dans ma grille, j'ai juste une marge de 12 pixels qui avait été positionnée. Et ici, je charge un événement qui s'appelle Window Loaded. Alors, Je reste sur le fichier, ben, sur le stack panel que j'ai copié. Je vais dans main page et je vais aller copier ce stack panel. Ensuite, je vais rajouter la marge margin. Je vais aller donc rajouter 12 pixels. Et ici, j'ai donc un événement, mais je ne vais pas le mettre tout de suite, qui s'appelle loaded, mais gardez-le en tête. Alors, la deuxième étape, c'est d'aller copier le code. Donc, dans mon code de main window, j'avais deux choses intéressantes. J'avais déjà un certain nombre de variables, random et NBSA, nombre d'essais. Donc, je vais faire de même. Je vais aller copier, non pas dans ma fenêtre, mais dans ma page, ces deux variables. Et ensuite, je vais faire l'équivalent pour l'ensemble des méthodes, y compris les événements. Alors, je ne prends pas cette méthode qui est un peu spécifique, donc qui était propre à ma fenêtre, main window. Donc, ça s'appelle un constructeur. Ça, je ne le prends pas en compte. En revanche, je prends en compte la copie de l'ensemble des autres méthodes. Voilà, je fais CTRL-C et je vais copier mes méthodes à l'intérieur. Il a l'air plutôt content. Alors, on va retourner sur main page. Et si vous vous rappelez, le seul détail maintenant, c'est simplement d'aller rajouter l'événement loaded qui existe. Et puis, il vous propose tous les gestionnaires d'événements qui peuvent être utilisés avec cet événement loaded. Donc, on va aller sélectionner Window Loaded. Et théoriquement, on est plutôt content. Alors, on a copié assez facilement l'intégralité du code et de l'interface graphique. Alors on ne le voit pas bien, mais si je zoome un petit peu sur mon interface, voilà, on a quelque chose d'assez similaire à ce qu'on avait dans notre application. Et maintenant, je peux alors vérifier que vous êtes bien en x86 et que ici vous êtes sur ordinateur local. Et si vous faites lancer, donc il va exécuter, voilà, il va compiler. Et au bout d'un moment, en tout cas il travaille. Voilà. Et on a une application universelle qui est similaire à celle qu'on avait en WPF. Alors, on a un petit détail ici, c'est qu'on a une petite fenêtre de debug qui, entre autres, vous indique le nombre de frames par seconde qui sont affiché actuellement. Si vous souhaitez ne pas afficher cette petite fenêtre de debug, on va arrêter l'application. Alors c'est pas sorcier, mais ça se cache quelque part. Il faut aller ici dans le fichier app, donc app.xaml.cs, et vous allez dans this.debug settings, enable frame rate counter, et ici à la place de true, vous mettez simplement false. Voilà. Et si on relance, alors généralement, lors de la deuxième exécution, c'est toujours un petit peu plus rapide. Voilà. Ça y est, je n'ai plus cette petite fenêtre de debug. On peut profiter de l'application. Et donc, on a une application, voilà, fonctionne comme on le souhaitait. On peut vérifier. Donc, valider. C'est plus. 15, c'est plus, 18, c'est moins, 17 peut-être. Bravo, j'ai gagné, nouvelle partie. Tout a l'air de fonctionner bien, exactement comme mon application WPF. Au détail près, que là si j'arrête tout, eh bien vous avez vu qu'on pouvait cibler l'ordinateur local, eh bien je peux cibler également Windows 10 mobile et j'ai un émulateur qui va me permettre de faire tourner l'application directement dans un Windows Phone, dans un Windows 10 mobile, émulé. Et voilà mon application. Donc je retrouve exactement la même. Alors vous avez vu que le form factor s'est adapté. Et donc je vais pouvoir procéder à la même chose. Donc, je peux taper 10, nouvelle partie. Non, valider, pardon. C'est moins 5, valider, c'est plus. C'est plus. C'est toujours plus. J'ai gagné. Alors, il y a un côté un petit peu laborieux dans ce que je viens de faire, c'est que quand la saisie se déclenche, il me propose un clavier qui est un clavier non pas numérique, mais un clavier alphanumérique, dans le sens où je vais avoir d'abord les lettres. Moi, ce que je préférerais, c'est avoir directement eh bien, les chiffres. Voilà, ce serait beaucoup plus adapté à mon application. Eh bien, on va essayer de le faire. Donc, on va retourner dans Visual Studio. On va faire stop. Et je vais vous donner une petite astuce. Si on va dans Main Page, on a une superbe possibilité. C'est ici, dans notre text box, on peut bénéficier d'une propriété qui s'appelle Input Scope. Et Input Scope va permettre de choisir le type de clavier qu'on souhaite par défaut. Et il y en a un, par exemple, qui s'appelle Number Full Width. Donc, on va utiliser celui-là, par exemple. Et on va relancer l'application. Et là, ça tombe beaucoup mieux. On a maintenant un clavier numérique et ça va être quand même beaucoup plus pratique pour eh bien, valider les options. Donc voilà, on va faire 12. Et 20, et je pense que j'ai gagné. Voilà, bravo. On a réalisé une application universelle à la fois pour Windows 10 et puis Windows 10 mobile. Voilà, ça tombe bien, c'est le même package. Maintenant, on va aller regarder un petit peu côté bah, déploiement, comment ça se passe. Toutes mes félicitations, vous avez réalisé une application universelle. Donc pour cibler Windows 10, Windows 10 mobile et d'autres périphériques, on l'a vu. Alors, comment ça se passe pour les étapes suivantes. Alors, je ne parle pas dans mon module de design, mais ce que vous avez vu finalement avec Michel Rousseau et l'utilisation de Blend, eh bien vous pouvez réutiliser l'ensemble de ces compétences pour faire le design de l'application universelle. Voilà, ça fonctionnera de la même manière. Et ensuite, à partir du moment où vous êtes prêt, que votre application est finalisée et que vous souhaitez bien la déployer, les opérations suivantes se passent sur ce portail, le Windows Dev Center, voilà, disponible sur dev.windows.com. Et c'est sur ce portail que vous allez pouvoir eh bien, télécharger votre package APPX. Mais c'est également le point d'entrée où vous allez pouvoir récupérer eh bien, les outils de développement, la documentation. Alors par exemple, si on va dans Documentation, on voit que là, vous allez pouvoir être appuyé sur la prise en main, la conception, le développement et la publication de votre application sur le store Windows 10. Donc assez pratique. Et vous avez également tout un éventail d'exemples de code que vous pouvez utiliser pour aller beaucoup plus loin. Une fois que vous êtes prêt, eh bien, vous pouvez aller sur la partie tableau de bord. Alors, à noter que pour accéder au tableau de bord, il y a besoin d'une petite contribution financière qui est de 19 $ si vous êtes un indépendant et 99 $ si c'est une entreprise. Alors, ce n'est pas un abonnement dans le sens où, à partir du moment où vous avez payé ça une fois, voilà, c'est disponible à vie. C'est juste un droit d'entrée pour accéder au Dev Center et au tableau de bord. Et à partir de là, vous allez pouvoir publier autant d'applications que vous le souhaitez sur le Windows Store. Alors pour créer une nouvelle application et bien sûr ce tableau de bord, vous pouvez faire créer une nouvelle application et on va vous demander quel est le nom de votre application. Donc il faut réserver un nom. Donc on va essayer le nombre mystère. On va vérifier la disponibilité. Ce n'est pas disponible. Alors je vais mettre le nombre de mystère comme ça. Voilà, on va vérifier la disponibilité, parce qu'il faut que ça soit forcément unique. Et à partir de ce moment-là, Je réserve le nom. Et je vais pouvoir soumettre mon application. Donc, on me propose de démarrer l'envoi. Et il va falloir suivre quelques étapes. Donc, dans les étapes, on va retrouver la tarification de l'application. On va retrouver des propriétés. On va retrouver le package, c'est-à-dire le fichier APPX qu'on va compiler à la fin. Et la description de l'application. Alors, si on rentre dans tarification, c'est simplement pour indiquer si votre application est gratuite ou elle est tarifiée. Voilà. Donc, essai gratuit, c'est pour préciser si vous avez besoin d'une version d'évaluation ou pas. Enfin, si vous proposez une version d'évaluation de votre application. Donc, c'est dans le cas où généralement votre application est payante. Et ensuite, dans la partie package qui va nous intéresser. Alors, autant pour moi, il faut que je fasse enregistrer. Voilà. Je passe pas sur l'ensemble des propriétés, mais en tout cas, c'est complet. Propriété de l'application, c'est la catégorie dans laquelle votre application va se retrouver. Donc, par exemple, jeu. Jeu. Alors, action aventure, peut-être pas forcément. Stratégie. Allez, on va dire stratégie. Store, évaluation de l'âge, convient aux jeunes enfants? Je pense que oui. Et ensuite, ça me suffit pour le moment. Je vais faire enregistrer. Toujours un petit peu de temps. Voilà, c'est complet. Et le package, c'est là où ça se complique. Il nous faut le fameux APPX. Et pour avoir le fichier APPX, on va retourner côté Visual Studio. Alors, je relance Visual Studio. Et ici, sur l'application Le Nombre Mystère Universel, je vais utiliser le menu contextuel pour aller dans une rubrique qui s'appelle Windows Store. Et là, vous faites Windows Store et associez l'application au Windows Store. Alors, on fait suivant. Alors, théoriquement, il faut se connecter avec votre compte Microsoft. Voilà, j'ai déjà fait cette opération. Je fais suivant. Et il va aller puiser l'ensemble des applications qui sont déjà présentes sur le Dev Center, qui sont associées à mon compte de développeur. Donc, ça prend un petit peu de temps. Et on retrouve, théoriquement, si tout se passe bien, notre fameuse application, le nombre mystère, et on va faire suivant. Et associer. Alors, une fois cette étape réalisée, on a fait la moitié du chemin. L'autre partie du chemin, c'est d'aller également dans Windows Store et on va faire créer des packages d'applications. Alors, on va retrouver quelque chose d'assez similaire à ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc je reviens sur précédent, c'est voulez-vous générer des packages à télécharger dans le Windows Store? Oui. Ensuite, on va nous reproposer la même fenêtre que précédemment avec la liste des applications. Ça va arriver. Je suis bien sur le nombre mystère, il me demande de confirmer que c'est bien le cas. Et ensuite, il va me proposer un répertoire. Alors je vais copier ce répertoire, mais théoriquement, il va l'ouvrir à la fin si j'ai la mémoire qui est correcte. Alors, créer. Et il est en train de me générer, le fameux fichier APPX. Alors, je vous ai économisé un tout petit peu de temps, mais la compilation a été réalisée avec succès. Et on a bien le chemin qui va pointer sur les packages. Alors, on retrouve différents packages. Même si c'est à la base un seul et même code, il va quand même compiler une version pour ARM, donc pour Windows 10 Mobile, et puis deux versions x86, x64, voilà, qui sont pour des PC, des tablettes plus traditionnelles. Alors, à partir de ce moment-là, il suffit de retourner sur le Windows Dev Center. On va aller rechercher les fichiers. Donc, faire CTRL-V. Et je vais pouvoir aller sélectionner mes différents packages. Faire Open et on va les télécharger. Une fois les éléments téléchargés et validés, vous n'avez plus qu'à enregistrer. Et vous allez pouvoir passer à l'étape suivante qui va être la description. Alors, on peut aller à l'intérieur, voilà. Il va détecter automatiquement les langues qui sont supportées par le package. Et vous avez après à rajouter la description de ce que fait votre application. et également eh bien, des captures, des visuels de votre application qui vont après être disponibles sur le Windows Store. Alors une fois toutes les étapes complétées, alors ce n'est pas le cas dans le visuel que vous avez à l'écran puisque je n'ai pas rempli tous les éléments de la description, entre autres je n'ai pas soumis les images, mais si vous avez eh bien, tous les éléments qui sont au vert, il vous reste simplement à envoyer votre application sur le store et puis cette application, au bout de quelques heures, si tout se passe bien, sera disponible pour tous les utilisateurs de Windows. Félicitations, on arrive à la fin de cette initiation code pour les vrais débutants. Voilà, j'espère que vous aurez appris plein de choses durant ces 4 modules. Et puis si vous avez des questions ou des commentaires, eh bien, je suis toujours disponible sur @dupuisjs et pour Michel Rousseau, c'est @rousseau_michel. Voilà, en tout cas, merci à tous et puis j'espère à très bientôt.